C'est un grand plaisir pour la librairie Mola et l'équipe du Rayon BD de vous accueillir aujourd'hui au studio Ozone pour la sortie de votre nouvel ouvrage Visa Transit, paru aux éditions Gallimard il y a quelques jours. Pour vous présenter brièvement au public, vous commencez votre carrière en 91 avec votre premier album Folie Gâteau. À partir de ce point, 28 ans de carrière avec de nombreux succès, autant salués par la critique que par le public. Pour en citer quelques-uns, Léon Lacam, pour lequel vous recevez le prix du meilleur album d'Angoulême en 98, à l'âge de 32 ans. La République du Catch, prépublié dans la revue japonaise Ultra Jump. Période glaciaire, Bibendum Céleste, Salvator. Mais vous ne vous contenez pas qu'à la bande dessinée, vous nous gratifiez pour notre plus grand plaisir et particulièrement celle de nos rétines, de magnifiques livres d'illustrations comme Travel Book Mexico, 500 dessins, et plus récemment, un roman chez Albin Michel, Les amours d'un fantôme en temps de guerre. Bonjour et bienvenue, Nicolas de Crécy.
Bonjour, bonsoir.
Bonjour, bonsoir, effectivement. Pour planter un peu le décor de ce nouvel album, alors nous sommes en 1986, l'accident de la centrale nucléaire Tchernobyl est encore récent, Maradona et sa célèbre main de Dieu va gagner la Coupe du monde de foot.
Ah, je ne me souvenais pas de ce détail. Voilà.
Sur une sorte de coup de tête, vous décidez de partir avec votre cousin Guy avec une vieille Citroën Visa. Celle-ci était à l'abandon dans le pain qui vous la donne in extremis avant une probable fin à la casse. Votre voyage va vous faire parcourir l'Europe, de la région parisienne vers la Turquie. Souvent présenté comme un road trip, nous allons essayer de voir que ce livre va bien au-delà. Alors, pour Visa Transit, pouvez-vous nous raconter un peu la genèse de cet album, sachant que c'est votre première BD depuis maintenant 4 ans ?
Les genèses des albums, c'est toujours un petit peu difficile à expliquer, puisque c'est en fait mon travail est très très intuitif, donc je me décide pratiquement du jour au lendemain d'un album que je vais faire. Un peu de la même manière que je voyage, ou de partir comme ça un peu n'importe où, n'importe comment. Faire mes albums, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ça va être une inspiration soudaine qui va me poser à ma table, et là je vais me dire, je vais tenter de voir si la chose est possible. Donc je commence à dessiner, à faire quelques pages. Je vois si je suis dans une direction qui est intéressante, qui est correcte, qui est valable. Et ensuite, je vais continuer ou non. Mais c'est vrai que c'est... Alors après, le fait de parler d'une époque, enfin de cette époque-là, de 1986, en fait, c'est la première fois que je faisais un livre autobiographique, c'est-à-dire que je mettais en scène la réalité. Parce que d'habitude, j'ai toujours des univers qui sont très... c'est des univers. Je n'aime pas dessiner la réalité, c'est quelque chose qui me pose problème. Et là, donc, ça m'obligeait de sortir un petit peu de ma zone de confort pour dessiner ce que j'avais en tête, ce qui était mes souvenirs de 1986. Donc, le livre au début était un petit peu difficile. Les premières pages étaient un petit peu difficiles parce que, au niveau du dessin, j'allais dans une direction qui était un peu contraire à ce que je fais d'habitude.
D'accord. Vous êtes lancé directement ou par à-coup pour créer cette bande dessinée-là ?
En fait, j'ai dessiné une dizaine de pages et puis je trouvais que le projet était un peu casse-gueule. Il fallait faire attention à ne pas rentrer dans le côté carte postale, le côté « je vais raconter mes vacances avec des petites anecdotes » qui risquent d'être un peu tout simplement pénibles. Et j'étais parti dans cette direction. Je me dis « il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, la structure ne fonctionne pas ». Donc j'ai laissé tomber en fait, j'ai mis les quelques planches que j'avais faites dans des tiroirs et j'ai attendu à peu près 4-5 mois et à ce moment-là j'ai demandé à mon cousin de m'envoyer des photos parce que j'avais pas de photos, j'avais pas de documents, des photos de l'époque, s'il avait retrouvé ou non des photos de l'époque. Donc là il m'a envoyé quelques photos et les peu de planches que j'avais dessinées, c'était tellement juste, enfin ce dont je me souvenais était tellement proche de ce qu'il y avait sur les photos, je me suis dit ça vaut quand même le coup de continuer cet exercice, d'essayer de faire en sorte de tabler là-dessus, de se dire j'ai des souvenirs dans ma tête, j'ai des choses, des images assez précises, et les mettre en scène, après trouver une architecture scénaristique qui fonctionne bien, même si je décris la réalité, mais c'est de trouver une architecture qui fasse en sorte que le livre ait un intérêt au niveau narratif aussi.
Ouais, c'était le challenge de cette BD pour sortir un peu de votre zone, on va dire, de confort, du coup.
Oui, tout à fait. C'était de et en fait de dessiner. Déjà, se dessiner soi-même, c'est quelque chose qui est assez compliqué, que j'aime. J'aime pas faire ça. En plus, si on regarde bien, enfin, dans aucune case, ni mon cousin ni moi-même, on a la même tête, parce que j'ai pas réussi. En fait, les 100 pages, c'est une recherche pour essayer de faire un visage qui ressemble à peu près à la réalité. Et je pense que j'y suis pas vraiment arrivé. Mais donc voilà, toutes ces contraintes un peu particulières, mais qui font en fait qui ont fait l'intérêt de l'exercice pour moi, parce que c'était nouveau. Et pour pas rester dans le travail que je fais habituellement, d'un travail imaginaire avec un monde, avec des personnages un peu mi-hommes, mi-animaux, enfin toute une espèce d'iconographie mythologique comme ça que j'ai mis en place dans mes autres albums. Et là, je sortais tout à fait de ce monde-là pour parler un peu aussi de cette expérience d'avoir passé le mur de l'Est en 86. C'est-à-dire qu'on était quand même assez curieux de savoir ce qu'il y avait là derrière. Et de le faire dans ces conditions, c'est-à-dire avec une vieille voiture qui pouvait mourir à chaque instant au cœur de la Yougoslavie, c'était quand même un truc assez rigolo, quoi. Donc c'était aussi le but de parler un peu de ces aventures-là, même si c'est pas des aventures extraordinaires. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça reste modeste, mais c'était
Pour à 20 ans, je pense que c'est extraordinaire, bien sûr.
Non, il y a des gens qui font. Il y a des gens qui font le tour du monde à vélo, en passant dans des pays qui sont quand même plus exposés que ça. Il y a des choses qui sont quand même plus. Là, on était en voiture, même si c'est l'équivalent d'une deux chevaux toute pourrie. C'est vrai que c'est vrai qu'on a failli perdre la voiture en Bulgarie sur une route transit, parce qu'à l'époque, donc, on était obligé de passer sur. On pouvait rester que 24 heures dans le pays. On était obligé d'emprunter la route en question et on pouvait pas aller ailleurs. Donc là, ça a été un épisode un peu compliqué, mais ça reste des aventures gentilles.
Alors l'action, donc, on a dit, se déroule en 86, à l'été 86. Vous êtes à ce moment étudiant d'une des premières, voire peut-être de la première promotion de l'école d'Angoulême. On peut se poser, on peut supposer que vous travaillez de façon ardue à ce moment sur votre trait, vos scénarios, que vous viviez 100%, on va dire, bande dessinée. Or, dans votre voiture, vous installez une bibliothèque qui, a priori, ne contient pas de bande dessinée. Du coup, en lisiez-vous à cette époque? Et si oui, pouvez-vous nous dire quels étaient vos maîtres dans le monde du 9e art, autant graphiquement que scénaristiquement, du moins ceux pour lesquels vous aviez une admiration?
En fait, moi, mes sources d'inspiration sont assez diverses et c'est pas simplement la bande dessinée. Donc, même quand j'étais étudiant à Angoulême, je lisais. Ce qui m'avait étonné à l'époque, c'était Matotti, Feu de Matotti, en fait, qui était sorti je crois que c'est sorti en 87. Mais enfin, j'étais encore étudiant là-bas. Je me souviens plus. Mais Feu de Matotti, c'était impressionnant parce que c'est la première fois qu'un auteur utilisait la couleur. Alors là, il y a des petites questions techniques, c'est-à-dire que avant, la couleur était faite sur bleu, on ne pouvait pas travailler directement en couleur sur les planches parce qu'il n'y avait pas le système de scannage qu'on a depuis une vingtaine d'années, enfin depuis 25 ans. Et donc c'était un des premiers à faire de la couleur directe, à faire pratiquement de la peinture. Et ça m'a beaucoup influencé pour mon premier album qui s'appelait Folie Gâteau et que j'ai commencé à peu près à cette époque-là, enfin en 88. Et qui était très peint, très pictural. C'est-à-dire que j'ai fait ça avec toutes sortes de techniques, gouache, aquarelle, peinture à l'huile, craie. Enfin bon, ça c'est quelque chose qui m'inspirait beaucoup, Matotti. Et puis sinon, il y avait Moebius, évidemment, pour la force de son dessin, pour une puissance de dessin qui est exceptionnelle. Comme on en a, comme ça existe, il y a très peu de dessinateurs de cette puissance-là.
Vous recopiez des auteurs quand vous étiez tout jeune?
Oui, bien sûr, comme tout le monde. Oui, je faisais mes propres albums de Tintin, de ce qu'on lit quand on est petit. Donc je faisais mes livres moi-même.
Alors, on va revenir à cette bibliothèque. Elle est très intéressante car, en quelque sorte, elle inclut une sorte de quatrième personnage à la bande dessinée. Donc il y a vous, il y a votre cousin Guy, la Citroën Visa, et en fait. Ce quatrième personnage, c'est la littérature, et plus particulièrement la poésie. vous a, dans l'introduction de votre livre, dès la, juste avant la première page, vous citez Denis Diderot. Votre cousin écrit des poèmes. Et tout cela est incarné dans la bande dessinée par un auteur, Henri Michaux. Pouvez-vous nous donner votre rapport à la littérature, à la poésie à l'époque, à ce moment-là, en 86, aujourd'hui? Est-ce que la littérature, la poésie vous influence dans votre travail?
Oui, certainement. Et en fait, à l'époque, je lisais beaucoup, j'aimais bien Henri Michaux, j'aimais bien aussi Max Jacob, Benjamin Perret, des gens comme ça qui vont un peu, qui sont, c'est pas, Henri Michaux n'était pas spécifiquement surréaliste, mais il avait une vision d'une surréalité quand même. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait chez lui, enfin, par rapport à, je l'ai mis en scène dans cet album, parce qu'en fait, je le cite, puisque, en effet, à l'époque, j'avais lu Le Voyage en Grande-Garabagne et Ailleurs, qui sont des titres où il parle d'un ailleurs, où il parle d'un monde qui est complètement, qui est fascinant, parce qu'il est complètement imaginaire, mais il est, enfin, ça m'inspirait énormément à l'époque. Et donc, je cite, dans le livre, je cite, je cite un peu ces livres-là. Mais j'ai trouvé un peu ridicule ce genre de citation. Enfin, je trouvais que ça fonctionnait pas. Donc, je l'ai mis en scène, lui, Henri Michaux, qui arrive sur sa moto, qui me poursuit, voilà, et qui vient me dire « T'es bien gentil avec de citer comme ça, mais utilise tes propres mots. Je vois pas pourquoi tu... voilà, t'es quand même capable de faire tes dialogues tout seul. T'es pas obligé de me citer de cette manière-là. » Donc, il y a tout un dialogue qui s'instaure entre moi à l'époque et Henri Michaux, et voilà, ça me permet en fait de mettre une temporalité différente, un peu fantastique dans le récit, qui sinon aurait été un petit peu linéaire. Même si on passe, il y a différentes temporalités, c'est-à-dire qu'il y a ma voix aujourd'hui, il y a ma voix de l'époque, et puis après je reviens aussi un petit peu aussi dans mon enfance.
Et est-ce que vous pouvez un peu donner en quelques mots la spécificité de l'écriture d'Henri Michaux?
En quelques mots, sa spécificité, oui. Eh ben c'est son étrangeté, en fait. C'est le.
Et comment aussi il écrivait, c'est-à-dire.
Ah, sous mescaline, oui. Voilà. Enfin, ça lui est arrivé. Mais là, en fait, dans Voyage en Grande-Garabagne et ailleurs, il écrivait pas sous mescaline.
D'accord.
Il a fait, ça s'appelle Miracle. Il y a Miracle dans le Misérable Miracle, où là, il explique. En fait, il écrit sous mescaline et il explique son expérience. Mais ça, je l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis dans le livre. Et là, c'est des... Non, il parle de peuplades lointaines et complètement extraordinaires.
Alors, Visa Transit, alors, lecture n'est pas qu'une simple autobiographie. C'est ce que vous essayez, justement. C'était une de vos contraintes, que ce ne soit pas juste un récit d'un voyage d'un été qui a marqué votre vie. C'est aussi un travail sur la mémoire. Vous le citez directement dès la première page, Denis Diderot, avec citation. « Ce n'est que par la mémoire que nous sommes un même individu pour les autres et pour nous-mêmes. Il ne me reste peut-être pas, à l'âge que j'ai, une seule molécule du corps que j'apportais en naissant. » Vous le citez aussi, la mémoire... par rapport à la station essence, que vous essayez de... vous dites que vous avez une bonne mémoire, mais finalement, vous ne retrouvez pas le lendemain cette fameuse station essence qui vous a un peu sauvé votre voyage en Italie. Vous en citez aussi vers la fin de l'ouvrage. Vous parlez de la mémoire. Aujourd'hui, tout est... avec le travail... Hop. Je me remets dessus.
Oui, hypertrophie de la mémoire, le fait de savoir que toutes les données sont consignées quelque part.
C'est ça. Alors, et quel regard portez-vous sur la mémoire, sur votre mémoire? Vous disiez que ce livre, justement, c'était aussi chercher dans votre mémoire.
Non, enfin, en fait, c'est le fait de savoir qu'on est effectivement constitué de sa mémoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas... j'aimais bien justement cette citation de Diderot qui disait « on est né... » On est né avec des cellules qui ont fabriqué un corps qui est notre corps, et ensuite, qui ne sont plus les mêmes, ça change apparemment tous les 7 ans, notre corps se régénère complètement, d'après ce que j'ai compris, toutes les cellules se régénèrent au bout de 7 ans. Enfin bon. Donc on n'est plus du tout la même personne, mais ce qui nous constitue, en fait, c'est le fil de notre mémoire, on s'est construit par rapport à la mémoire des événements et la manière dont on, en fait, dont chacun les replace. On replace sa propre histoire. Alors, quelquefois, ça peut être faux, on peut l'interpréter, on peut se l'interpréter soi-même d'une façon qui est pas juste. Donc, ce que je trouvais intéressant là, c'est d'essayer d'être au plus proche de mes souvenirs les plus précis et de mettre ça en scène. Et ensuite, en fait, j'ai fait un peu valider ces souvenirs par mon cousin. Je lui ai pas demandé « Ah, tu te souviens de telle ou telle chose ?» Je lui ai dit « Tu te souviens de quoi ?» Et en fait, les choses dont il se souvenait correspondaient assez précisément. Il y avait des faits marquants dont on se souvenait tous les deux, et c'était les mêmes. Donc, je trouvais intéressant comme ça de reconstituer un fil qui est juste un élément. Voilà, ça a dû durer 3 semaines dans notre existence, c'est pas énorme. Mais de montrer tous ces fils de la mémoire, donc avec les différentes temporalités que je mets en scène dans le livre, et le fait de dire... Voilà de quoi, enfin une recherche sur ce qui me constitue en fait, même si c'est quelque chose de très court et assez, enfin je ne m'étends pas sur ma vie privée dans cet album-là, mais c'est quand même un exercice par rapport à ce qui, chacun est constitué de la propre histoire qui s'écrit lui-même en fait.
Et comment vous avez construit en fait le rythme de cette BD Donc il y a ce voyage qui est jonché de différents souvenirs, de différentes époques. Et d'ailleurs, vous commencez, dès les premières pages, par la Turquie, c'est-à-dire la fin de votre voyage. Comment donc avez-vous construit le rythme de cette BD? Comment vous avez fait pour les différentes temporalités? Quels étaient les choix?
Encore une fois, c'est un mélange de... C'est très... En fait, je me fais confiance, c'est-à-dire je pars et ensuite j'essaye de raccrocher les bouts. Ce qui est... normalement, on ne fait pas ça pour faire un bon scénario, on ne fait pas comme ça. Mais je suis parti, alors j'ai effectivement... Il me semblait que c'était intéressant de commencer en Turquie pour ensuite revenir au début du voyage. Mmh. Alors, ce n'est pas tout à fait la fin du voyage. On démarre en Anatolie alors qu'on est descendu ensuite au sud de la Turquie. Donc, ça me permet d'expliquer un peu le début du voyage et de montrer qu'après, on a passé le mur de l'Est, qu'on est passé en Yougoslavie et en Bulgarie. Et ça me permet de jouer alors dans quelque chose qui a été assez complexe à faire, c'est de revenir sur toutes ces temporalités différentes et en mettant en scène en plus Henri Michaud, qui lui vient d'un univers fantastique, donc de mélanger tout ça et faire en sorte que tout ça reste toujours fluide, que la lecture reste complètement fluide et qu'on puisse lire ça sans se poser de questions, que ça ait l'air simple en fait. Et là étaient toutes les difficultés.
Alors, vous avez un style de narration qui vous est propre, un style graphique identifiable au premier regard. Je vous ai demandé d'amener avec vous, si possible, des esquisses, carnet de travail, pour nous montrer un peu, nous faire sentir comment vous créez un projet. Donc, vous avez ramené des planches.
J'ai ramené quelques éléments, oui, pas grand-chose, mais ça permet effectivement techniquement de voir un peu, mais... En fait, comme chaque planche est différente, il y a des planches que je peux faire, par exemple, directement, que je vais dessiner. S'il s'agit d'un décor, on voit quelque chose là.
Alors, je vais...
Je me demandais si on voyait ce qu'il y avait là.
Non.
En fait, il m'arrive, quand c'est des planches de décor, ou c'est du pur décor, j'y vais directement. C'est-à-dire que je vais directement à la plume, parce que j'ai l'habitude de dessiner, je suis assez sûr de moi pour faire ça directement. Ensuite, quand il s'agit de mettre en scène des personnages, là, ça devient plus compliqué parce qu'il y a la morphologie des personnages, ça demande un dessin plus poussé et une mise en scène. Je ne connais pas cette technique.
Là, c'est parfait. Ben voilà.
Donc, ça, vous voyez des choses dans quel sens? Comme ça?
Le paysage, comme vous étiez.
Ah d'accord, ok. Là, c'est bon. Je serais curieux de voir ce qu'on peut voir là, ce qu'on voit là. Attendez, je vais regarder.
Je vois rien. Je vais descendre.
Je ne vois rien. Mais il faudrait. Il faudrait que je puisse voir aussi. Il faut avoir le cerveau dans l'autre sens. Voilà. Donc là, on a un exemple de croquis très rapide. Ah ben non, mais vous, c'est pas dans le bon sens. Ça va être comme ça.
Voilà, là, s'il est vertical, ouais, c'est bien. Comme ça, parfait.
Non, mais en fait, il y a des dessins dans tous les sens. Donc,
C'est peut-être ça.
Voilà, donc là, c'est un exemple d'un croquis rapide de mise en place. Alors, comme il y a des personnages, le fait de mettre en place une voiture sur laquelle on doit dessiner une perspective, etc. Donc là, je mets... Là, c'est un croquis relativement poussé. Et à partir de ça, en fait, je prends une table lumineuse et là, je fais le trait directement sur du papier aquarelle. Et ensuite, je viens poser la couleur de l'aquarelle. Donc, c'est quand même le travail le plus long. C'est pas le travail de mise en scène ni le travail d'ancrage, c'est le travail de couleur. Parce que là, en plus, j'ai une technique différente par l'aquarelle parce que je voulais que les couleurs soient qu'on sente le soleil en fait. D'accord. Donc il y a vraiment une lumière telle qu'on l'a vécu à l'époque. Enfin, on traversait ces pays-là qui étaient chauds, ensoleillés. Donc je voulais rendre ça. Donc il me fallait une aquarelle, enfin un travail d'aquarelle que je fais pas habituellement ou d'habitude c'est plus sombre. Mon travail est plus sombre. Donc là il y a des croquis de diverses. C'est à l'envers. Donc c'est comme ça. Hein. Voilà. Donc là comme il y a des positions qui, enfin, c'est quand même un trait très rapide. Hein, tout ça, je le fais vite, mais ça demande quand même un minimum de mise en scène qui me demande des croquis. Alors qu'avant, quand je faisais Léon Lacam, je faisais au crayon direct, comme ça, enfin plus avec un trait plus précis,
d'accord,
que je passais à la photocopieuse et qui manquerait. En fait, j'y avais pas de travail d'ancrage.
D'accord.
Donc c'était une technique plus rapide que ça, mais j'arrive plus à le faire ça. Du fait que j'ai moins pratiqué la bande dessinée pendant longtemps, donc j'ai plus cette habitude de traits vraiment directs. Voilà, ça c'est un peu une page telle que... En fait, je prends plein de notes diverses que, en général, je perds. Et je,
un peu plus bas. Voilà.
Et j'arrive pas à me relire. Pardon. Et donc, voilà, donc je travaille, j'ai assez peu de rigueur dans mon travail. C'est-à-dire que je fais pas un scénario précis avec un découpage précis et ensuite le crayonner et tout le travail habituel, mais c'est vraiment, enfin, j'y vais.
Vous laissez une part d'improvisation
relative, oui.
D'accord.
Ouais. Sauf que là, en l'occurrence, comme je décrivais une réalité à laquelle je devais me tenir, j'improvisais plus sur la narration, l'articulation de la narration, plutôt que sur les faits eux-mêmes qui se déroulaient. Voilà.
Alors,
donc là, c'est dans ce sens-là. Hein, c'est
exactement,
ça
c'est ça.
Voilà, ça c'est le tome 2, hein, en avant-première. Voilà. Voilà, après, alors, il y a quelques planches originales, mais alors...
Dans votre sens, en fait, dans votre sens, voilà.
Donc, technique très simple de... Alors ça, par exemple, c'est un dessin fait directement, d'après une photo que j'ai retrouvée d'une douane qui n'était pas exactement la bonne douane, parce que là, c'est censé être entre l'Italie et la Yougoslavie, donc qui est maintenant la frontière, c'est la Slovénie. Donc j'ai trouvé un document qui ressemblait plus ou moins à mes souvenirs. Donc c'est un travail entre le souvenir et les documents que j'ai pu retrouver sur Internet, plus ou moins de l'époque. Donc je pense que ce n'était pas comme ça, mais ça y est, on retrouve à peu près l'ambiance, quoi. Donc là, j'ai la photo sur l'écran et je recopie directement au trait.
D'accord.
Et ensuite, il y a le travail de mise en couleur. Voilà.
La mise en couleur, donc vous utilisez de l'aquarelle, mais aussi, là, par exemple, je vois les gouttes de pluie. C'est pas que de l'aquarelle, ça c'est...
Oui, il y a du crayon, il y a de diverses... Il y a quelques petites touches au crayon de couleur, oui.
D'accord.
Ouais, ouais. Voilà, donc là, il n'y a pas vraiment de documents. En fait, la Citroën Visa, je l'ai dessinée une quinzaine de fois, et puis après, elle est rentrée dans mon vocabulaire graphique, et j'ai pu la faire sous tous les angles sans avoir vraiment de problème.
Alors,
voilà. Donc là, il y a quelques ambiances différentes au sein d'une même planche. Voilà, on peut voir le travail d'aquarelle, là, qui est plus poussé, parce que... Comme c'est la nuit, ça me permet de poser une ambiance assez forte avec l'aquarelle. J'aime bien cette planche parce qu'on passe de la nuit en plein jour, donc il y a quand même une espèce de contraste. Et là, je joue vraiment avec la lumière. Voilà.
Vous n'avez jamais, il me semble, travaillé avec l'ordinateur. Vous faites tout.
Non, je ne travaille pas avec l'ordinateur, mais par exemple, on a une planche ici qui est en deux. Ça, c'est une planche. Et dans l'album.
Là, dans l'album. Voyez, c'est du dessous, donc il faudrait descendre un petit peu.
L'ambiance est légèrement différente parce que c'est une base. Ça, c'est une base que j'ai faite à l'aquarelle. Et ensuite, il y a eu tout un travail que j'ai refait sur Photoshop pour retravailler une ambiance un peu différente, en fait.
Vous aimez un peu ce côté, on va dire, peut-être artisanal. Il vous faut de vrais outils, on va dire, enfin, de vrais outils, des outils physiques pour travailler. C'est là où vous prenez, on va dire, comme un artisan, du plaisir.
Ah oui, je suis ancienne école, oui. Bah, je suis d'une génération où on apprenait à dessiner avec des choses réelles.
C'est vrai.
Donc, c'était pas la Cintiq. Maintenant, il y a la Cintiq, c'est-à-dire que tout se fait sur ordinateur. On peut c'est beaucoup plus pratique de faire des bandes dessinées sur ordinateur parce que, enfin, d'avoir la Cintiq, c'est un écran et on dessine directement sur l'écran. Et on peut, quand on a des croquis, on revient directement dessus. Donc, ça permet d'aller plus vite, d'avoir certains raccourcis qui sont intéressants. Hein, mais moi, je m'y suis pas encore mis parce que j'aime bien. En fait, le truc surtout, c'est que moi, je ne vis pas de mes droits d'auteur, mais des ventes des planches originales. Donc, si elles n'existent pas, ça serait plus compliqué à vendre.
C'est sûr. Donc là, 86, quel était, alors, en 86, voilà, donc jeune étudiant, quel était votre style de dessin? Nous, on vous a quasiment connu directement avec votre style de dessin qui est... vraiment propre à vous. Est-ce que en 86, vous cherchiez encore, ou est-ce que on se rapproche de quelque chose
Non.
Qui sera à partir de votre début de carrière jusqu'à aujourd'hui, avec bien sûr forcément le travail qui évolue.
Non, j'avais à peu près trouvé la direction dans laquelle je voulais travailler, en fait, puisque Folie Gâteau, donc mon premier livre, je l'ai commencé en 88. Là c'était deux ans avant,
87,
donc j'étais pas très, enfin je faisais encore des recherches justement, l'école est là pour ça, pour faire des recherches dans toutes les directions possibles, mais là j'étais déjà pas très loin de, j'avais déjà fait quelques pages qui n'étaient pas Folie Gâteau mais des choses qui étaient dans le même esprit, oui j'étais à peu près au point.
Et combien de temps pour réaliser cet ouvrage?
Lequel?
Celui-ci, Visa Transit.
Un peu moins d'un an.
Un peu moins d'un an,
oui.
À partir du moment où vous faites la première planche. Mais par exemple, il vous faut combien de temps pour faire une planche?
Ça dépend du travail de couleur qu'il y a dessus, en fait, parce que par rapport à la couleur, donc ça va dépendre, mais il me faut peut-être en couleur comprise 2 jours pour faire une planche.
D'accord. Voilà, Visa Transit de Nicolas de Crécy. Vous avez compris, un formidable road trip, un merveilleux travail poétique et un magnifique témoignage d'un auteur sur sa mémoire et les événements qui ont influé sur son travail. Merci aux éditions Gallimard, à Sandrine Dutordoire, Margot Lefay et bien sûr, vous, Nicolas de Crécy.
Merci
beaucoup.
À vous.
Merci.
Alors, normalement, vous avez tous reçu un petit ticket pour...